Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Étienne Dereux. Salut Étienne.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Étienne Dereux, j'ai 30 ans, je suis directeur artistique et designer freelance. Est-ce que tu veux que je parle de mon parcours, j'enchaîne sur mon parcours?
Oui, en général, ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours? Mais ce que je voudrais dire quand même juste avant de commencer, c'est que moi, si je fais de la mode, c'est un peu à cause ou grâce à toi. Je me rappelle quand j'étais encore en job chez Prêt-à-Manger à l'époque, je regardais les magazines et les jeunes créateurs à l'époque, il y avait toi, entre autres. Et donc, je te regardais avec beaucoup d'admiration parce que tu étais hyper jeune. Ça remonte à 4-5 ans en arrière. Et depuis, c'est passé beaucoup de choses. Et donc, tu vas nous raconter tout ça, tu vas nous partager toute ton expérience. Et puis, je dois dire aussi qu'il y a plusieurs personnes dans ce podcast qui ont parlé de toi et qui ont cité Étienne Dereux à plusieurs reprises. Donc, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Et donc, voilà, ma deuxième question, c'est est-ce que tu peux reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui?
Ok. Je suis très content d'être là aussi et merci beaucoup. Ça me touche ce que tu me dis. Depuis ma plus tendre enfance, je ne sais pas si c'est un vrai intérêt, j'ai toujours eu beaucoup d'affinités pour le design, pour l'art, pour la mode. C'est toujours des choses autour desquelles j'ai gravité. Je voulais étudier l'architecture quand j'étais enfant. Puis j'ai un petit peu dévié, en particulier parce que j'ai compris pour différentes raisons, je pense vers l'âge de 12 ou 13 ans, que la mode était une industrie et que il y avait des vrais métiers, pas seulement de dessiner, enfin de faire des dessins ou pas seulement, enfin, voilà, en tout cas, enfin, quand je dis vrai métier, j'avais aucune idée de ce que du nombre énorme de corps de métier que cette industrie comportait. Et j'ai un peu découvert ça via des magazines professionnels et via une relation familiale. Donc ça m'a vachement influencé dans le sens où j'ai compris que je pouvais allier, je dirais, l'art, l'architecture, le design et au sein d'un même milieu et d'en faire un métier. Donc voilà, j'ai fait des études classiques, pas forcément brillantes. Je suis allé au lycée, machin, enfin bref. Et à 17 ans, je suis parti. Enfin, 17 ans après le bac, j'ai pris une année sabbatique. Parce que ça se passait pas super bien à l'école et parce que quand je raconte, enfin je viens du nord de la France et quand je racontais aux gens que je voulais faire de la mode,
ils me regardaient bizarrement,
on se foutait un peu de ma gueule, que ce soit mes profs, mes conseillers d'orientation ou mes camarades de classe. Donc je dirais que j'ai pris un peu un an pour essayer de réfléchir, comprendre comment ça se passait et j'ai fait deux rencontres. J'ai d'abord obtenu un stage chez Jean-Louis Scherrer en haute couture auprès de Stéphane Roland, un peu par coup de chance, parce que je travaillais dans un cabinet comptable qui s'occupait des comptes de la maison Scherrer. Et une des responsables qui me voyait me tourner un peu en rond et porter des cartons pour comme job d'été m'a demandé un jour ce que je voulais faire dans la vie. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a un peu ouvert la porte et présenté à Stéphane Roland, ce qui m'a permis de faire un premier stage en haute couture, super intéressant, et de conforter, je dirais, mon envie. Et ensuite, j'ai fait une deuxième rencontre, assez improbable aussi, J'ai rencontré par hasard l'une des directrices de le Central Institute of Technology de Perth en Australie, sur la côte ouest australienne, qui était en voyage à Lille, voilà, pour diverses raisons, mais encore une fois, un espèce de coup du destin. Et je me retrouve à dîner avec cette dame, et puis elle me dit que si j'ai envie de venir faire des short courses en Australie, dans son école, elle peut m'héberger, et puis elle peut m'arranger ça. Donc je me retrouve à lui dire banco, et 2 mois plus tard, je prends un billet pour Perth, et je passe 6 mois en Australie à apprendre à coudre, apprendre à dessiner, et préparer en fait un portfolio pour différentes écoles, pour passer des concours, notamment en Belgique, à la Cambre, à l'Académie d'Anvers. Je rentre en France, tout juste à 18 ans, et je passe, je me jette un peu à l'eau, je prends le train depuis Lille pour aller passer le concours d'entrée à l'Académie d'Anvers, que j'obtiens, je sais toujours pas comment.
Non mais il faut quand même dire que c'est assez ouf l'Académie d'Anvers.
Ouais, bah c'est une des, enfin pour rappel, c'est une des grandes écoles de mode dans le monde, qui a vu passer Dries Van Noten, Margiela, Anne de Mulmester, Demna plus récemment, Ken Martins.
Ouais, c'est quand même pas mal de gens assez talentueux, hein.
Voilà, donc en gros un peu. J'ai un peu sonné par mon succès, entre guillemets. Mmh. Et donc, aussi pour rappel, on est le 1er septembre ou quelque chose comme ça, et la rentrée, c'est le 9 septembre. Donc, je me dépêche de trouver un endroit où habiter, et je déménage en Trombe à Anvers. Mmh. Où je reste un an, je travaille énormément, jour et nuit, on dessine beaucoup. C'est très intense.
Ouais. Explique, déjà, l'entrée, en quoi c'est difficile d'y rentrer, et surtout, derrière, c'est quoi le processus d'apprentissage, quoi ? Comment tu apprends à...
Alors, l'examen d'entrée, on est... je crois qu'on est 140 par session. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'en sais rien, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais il y a 10 ans, 12 ans, on était 140 avec des gens qui viennent de Chine, Corée, Japon, Macédoine, Grèce, Angleterre, États-Unis, Canada, Espagne, Italie, enfin, Russie, enfin, tout ce que tu veux.
Et des gens qui veulent faire ça depuis qu'ils ont 5 ans et demi, non ?
Voilà. et des mecs qui dessinent comme Michel-Ange et qui sont super équipés et machin, mais en fait, c'est un peu un espèce de stress test, c'est qu'on est dans une salle pendant 3 jours et on fait des dessins. Sans vraiment de consigne particulière.
Mais c'est quoi, c'est des intentions de vêtements, de silhouette, ou c'est, ça n'a rien à voir?
Ça dépend.
Mais il y a une consigne quand même?
Ben pas vraiment. Il y a un buste en plâtre. Le premier jour, il y a un buste en plâtre au milieu de la salle. Le deuxième jour, il y a un manteau sur une chaise. Le troisième jour, je me souviens plus, mais voilà. Enfin, et on gratte, on fait remplir des portfolios, on remplit des trucs. Et une interview en fait avec deux professeurs, enfin deux membres du corps professoral, et voilà. Et puis au bout de 3 jours, ils délibèrent et puis ils décident, quoi. Après, je sais toujours pas comment.
Mais ils te débriefent pas forcément de pourquoi t'as été pris ou pas? Si, non, c'est vraiment à l'ancienne quand même, hein.
C'est genre yes or no et puis c'est tout, et voilà.
Et tu sais pas pourquoi t'as foiré, tu sais pas pourquoi t'as réussi. Okay.
Ça c'est pour l'examen d'entrée. Pour l'apprentissage, c'est un peu YOLO freestyle. Démerdez-vous.
C'est un côté très anglo-saxon, non?
Ouais, je sais pas, parce que j'ai pas l'expérience des anglo-saxons, mais c'est un côté très c'est genre voilà, il y a 3 projets, enfin en tout cas sur la première année, il y a 3 projets à faire. Voilà les consignes. Vous allez, dessiner le projet. Et tu ponds, quand je dis dessiner, tu largues 200 croquis par jour. Et puis une fois que tu as dessiné, tu réalises. Mais voilà, tu as quelques cours, un peu de support technique, tu as des machines, tu as des choses comme ça. Mais c'est vraiment très. c'est à toi de gérer.
C'est
quoi.
Hyper libre. Ouais.
Et donc voilà. Donc ça, je fais ça pendant un an. Je me mets vraiment à niveau parce que j'étais pas un très bon dessinateur. Je suis toujours pas, un très bon dessinateur.
Tu avais une culture mode quand même. Tu t'étais intéressé au sujet depuis longtemps ou
j'avais une
pas tant que ça.
Une grande culture mode. J'avais une culture mode.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu achetais plein de magazines.
J'achetais des magazines, j'achetais des bouquins. Ouais. Pour référence, mon père est libraire, donc j'avais quand même un accès à une manne culturelle qui n'était pas négligeable. Et en fait, ma marraine est modéliste. J'ai toujours une relation très, très proche avec elle. J'y reviendrai plus tard. Mais donc voilà, donc culturellement, je me mets. Enfin, je suis dans la moyenne, on va dire. Après, je suis très jeune. Je crois qu'on est. On est deux à avoir 18 ans, le reste, ils sont déjà bardés de diplômes, ils ont déjà plus de 25 ans, ce qui, quand tu as 18 ans, ça fait un écart d'âge un peu assez important. Mais je me mets surtout à niveau techniquement, et surtout, je prends une très grande résistance au stress grâce à cette expérience. Et puis, au bout d'un an... il se passe différentes choses. J'ai des amis, les amis proches, je dirais, que je me suis fait pendant cette année, pour la plupart s'en vont dans différentes directions. Il y en a un qui est aujourd'hui assez connu, voire très connu, qui s'appelle Ken Inomiya, qui était dans ma classe, qui est toujours un copain, qui était mon grand copain à l'époque. Qui repart au Japon, une autre amie qui aujourd'hui, qui part à Berlin, qui est toujours aujourd'hui comme grande exécutive chez Nike, mais voilà, enfin bref, j'ai mon cercle proche s'en va, je me retrouve un peu tout seul comme un con à Anvers. Faut quand même se souvenir qu'il fait pas beau
tout le temps,
il pleut 300 jours par an, puis quand il pleut pas, il fait gris, donc voilà, enfin, il y a un truc un peu, je ne vais pas dire déprimant, mais il y a un peu, je suis un peu le moral dans les chaussettes. Et au même moment, j'ai un paquet de copains, en fait, lillois, qui déménagent à Bruxelles pour suivre des études de graphisme, d'architecture, etc. Donc, en fait, j'ai une espèce de vivier d'écosystème artistique qui se met en place à Bruxelles, un peu malgré moi. Et je me dis, OK, peut-être que j'ai plus intérêt à aller voir là-bas aussi. Et je passe l'examen d'entrée de la Cambre. Encore une fois, en septembre, l'année suivante, en me disant « ça a l'air cool, on verra bien, c'est à Bruxelles. Puis si je ne l'ai pas, j'ai toujours, je retourne à Anvers et c'est cool. » Je passe cet examen qui est encore plus intense, d'une certaine manière, parce qu'il dure une semaine complète. Encore une fois, je sais pas trop comment j'obtiens cet examen. et du coup, je me décide, je me dis, je déménage à Bruxelles.
Plus cool, quoi.
C'est un peu plus cool. C'est pas que c'est plus cool, mais au moins je parle français. Les cours seront en français. J'ai une bande de potes qui est là. Il y a une espèce d'émulsion créative. Je peux me rabattre sur des gens que je connais qui maîtrisent, qui sont graphistes ou en train de le devenir. Il y a un écosystème qui devient plus confortable que celui qui venait de disparaître à Anvers. Et je m'installe à Bruxelles pour 2 ans et demi, à peu près, où je suis donc les cours de stylisme à la Cambre. Ce qui est une expérience similaire et différente, c'est un peu bizarre. Je dirais dans le principe d'éducation, on est proche. Après, dans la pratique, c'est très différent. Mais très très intéressant aussi. Techniquement, un niveau au-dessus. En fait, il y a vraiment, je dirais, un suivi technique, des cours de technique. on ne demande presque pas de dessiner en fait pendant les deux, au moins les deux premières années.
On demande
de réfléchir à des nouvelles façons de créer, de développer, de faire des vêtements. En passant par du moulage, du patronage, voilà. Donc c'est très 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 complet, on va dire.
C'est vraiment de la recherche. C'est beaucoup de recherche.
Énormément de recherche. Un peu de dessin, un peu de pas mal de culture générale, de la socio, de la philo, tout ça. Mais
Tu kiffes faire ça ? C'est vraiment un plaisir de ces années-là. T'es dans ton élément.
Je suis dans mon élément. Et en même temps, il y a un truc qui me manque complètement, c'est que je vois pas le sens. Je vois pas bien le sens de ce que je fais. Et en fait, je me mets à travailler avec des modélistes, avec des ateliers, en fait, t'as quand même pas mal de choses à produire. Donc, on te pousse quand même à gérer, à t'équiper pour la vraie vie, c'est-à-dire. Et je me mets à travailler avec des professionnels sur mes projets d'école, hein, mais. Et là, je découvre un peu un monde où c'est vachement plus rationnel. Il y a un besoin, il y a un besoin de créer, il y a un besoin de développer, il y a une réalité économique. Donc, il y a tout un truc, en fait, je dirais, beaucoup plus tangible qui, d'une certaine manière, me manquait à l'école.
Vrai, ouais. À l'école, t'es complètement, dans ces écoles, t'es complètement déconnecté de tout ça.
Ouais, ça m'a toujours un peu posé problème, parce que même dans les réflexions que je menais ou dans les projets que je rendais, il y avait toujours, je dirais, un espèce d'élément. J'ai souvent dit mon grand désarroi, enfin pas mon désarroi, leur désarroi, on va dire, mais bref. J'ai souvent mis en avant le fait que je voulais développer des choses qui pouvaient être vendables, qui pouvaient être portables. Ça m'a pas vraiment porté, je dirais, dans mes études. Mais voilà, enfin bref, la cambre me permet en tout cas de mener cette exploration-là, de travailler avec un atelier en particulier dans le nord de la France qui deviendra très stratégique et central dans la suite de mon histoire. Et voilà, et je fais une collection au bout de ma deuxième année qui en fait suit ce principe-là, où je me dis j'ai envie de vendre mes trucs, j'ai envie que les gens portent mes trucs, j'ai pas juste envie de faire des choses pour un défi de fin d'année que personne verra, ou qui sera dans un magazine et puis qui, après ce sera terminé, j'ai envie que ça aille plus loin. Et il y a un magasin qui s'appelle Hunting and Collecting à Bruxelles, qui achète la collection, enfin, en tout cas une partie de la collection. Et puis ça me fait un peu un déclic et je me dis si ma réflexion a fonctionné, c'est qu'il y a quelque chose. Et en fait, au même moment, je pars aux États-Unis après la fin de cette année pour
Matthew Ames.
Voilà, ouais. Pour travailler. Enfin, à la base, j'étais censé travailler chez Proenza Schooler. Et puis par hasard, je rencontre Matthew Ames à la fin de son show. Je suis complètement sous le charme. Et puis on m'explique qu'en fait, il n'a pas vraiment d'équipe, qu'il cherche des gens, qu'il doit se développer, etc. Donc au fil en aiguille, je me retrouve à bosser pour lui. Et un peu DJ Proenza. Mais bon, voilà, j'écoute mon cœur plus que ma tête.
En plus, Proenza à l'époque, c'était quand même plutôt cool, quoi, non ?
Ouais, non, mais c'était le top du top à New York. Mais il y a un truc dans cette esthétique qui me parle. Il y a.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier ? Je vois pas du tout à quoi ça ressemble.
C'était un espèce de sportswear à l'ancienne, enfin, leisurewear à l'ancienne, donc très. Très Hermès Margiela, quoi, en gros. Beaucoup de tailoring, des matières super, super, super luxueuses. Et genre, une grande réflexion autour du mouvement. Genre, une des grandes inspirations, c'était toujours Merce Cunningham et la danse. Voilà, il y a un truc très poétique là-dedans, enfin, dans son travail, qui, moi, me plaît. Et je dirais un aspect un peu plus confidentiel et une marque un peu très petite qui me permet d'avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès dans une plus grosse maison. Et je me retrouve. Ouais, je me retrouve à 21 ans, directeur de studio. faire bosser des gens, à gérer des campagnes de vente, à gérer de la production, à gérer du développement, un show, etc. Ce qui est super, super enrichissant. Le problème, c'est que là, voilà, encore une fois, on a une réalité économique qui ne pardonne pas. On est en 2009. C'est pas la période la plus glorieuse de notre industrie.
C'est vrai que c'est le moment où en fait, les trentenaires sont arrivés sur le marché. C'était vraiment pas le bon moment, quoi. Pour rappel, pour les plus jeunes, en 2008, c'était crise.
L'une des plus grosses financières.
Qui a foutu toute l'économie en l'air.
Et donc, résultat des courses, la marque s'arrête. Tout simplement, comme pas mal de marques à ce moment-là.
Parce
qu'il n'y a plus de sous, parce qu'on ne s'en vend pas comme il faut, parce que ça coûte de l'argent d'avoir une marque. et donc voilà, et j'entre en France. Un peu le bec dans l'eau, pour être honnête, parce que j'ai pas de diplôme, parce que j'ai une expérience un peu en dents de scie, où j'ai bossé chez un mec super, mais dont personne n'a jamais entendu parler. Et donc, je me retrouve à travailler avec Martine Carrette, ma marraine, dont je parlais tout à l'heure, qui est co-gérante d'un atelier de prototypage et d'un bureau d'études en modélisme. Et je me retrouve à travailler pour elle, à Roubaix, dans le Nord. Et là, je fais du patronage et de la gestion de production pour La Redoute, Les Trois Suisses, Camailleux, Xanaka, Un Jour Ailleurs. Voilà. Encore une fois, pas assez... c'était pas nécessairement mon objectif premier, mais ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup enseigné sur, encore une fois, la rationalisation de la production et comment on peut fabriquer des vêtements à plus grande échelle. Et puis me familiariser avec des outils, je dirais techniques, comme le système Lectra, qui est un système informatique pour faire du patronage, etc.
Mais c'est fou parce que tu... Enfin, c'est marrant, j'ai l'impression que là, tu post-rationalises vachement en disant c'était bien, finalement t'as appris plein de trucs, etc. Mais quand tu sors de Anvers et de la Cambre, aller bosser pour La Redoute, Les Trois Suisses, etc., c'est pas le truc le plus sexy du monde, quoi. Je veux dire, j'adore La Redoute. Et je dis, en plus, j'interview juste après toi, j'interview la patronne de La Redoute, ça tombe bien. Mais le. Quand tu sors de ces écoles-là, tu te dis, t'as plutôt envie d'aller sur les podiums plutôt que sur des catalogues, quoi.
Ouais, c'est sûr que voilà, enfin il y a quand même c'est pas facile, je dirais, à l'époque, clairement, de vivre ça. Aussi, juste, enfin c'est un truc j'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque je fais quand même, mon job s'arrête, il faut que je parte parce que j'ai plus de visa, et je fais Manhattan Roubaix, quoi. Sans déconner, je fais Manhattan, Roubaix. J'arrive à Charles de Gaulle, je prends le TGV et j'arrive dans le nord de la France en 12 heures. Donc le choc, il est.
Ouais, c'est retour à la case départ un peu quand même. Hein.
Ouais, départ, je sais pas, mais c'est un peu violent, on va dire. C'est un peu violent. Mais bon. Voilà, il faut ce qu'il faut, il faut bouffer, donc je fais ça. Puis ça se passe, ça dure pas non plus très longtemps, hein. ça dure 6 mois, ça se passe bien.
Ouais.
Et puis en fait, au bout de 6 mois, Martine me dit, un peu comme ça, au détour d'une conversation, je vais avoir 60 ans, j'ai plus envie de faire ce que je fais. Mais okay. J'ai pas envie d'arrêter de travailler. On a déjà évoqué ton idée de commencer une marque. Je te propose d'apporter mes connaissances et mon bagage industriel. Et toi, tu trouves de l'argent. Et puis on y va.
C'est énorme.
Bah ouais. C'est un des plus beaux coups de pouce qu'on ait pu me faire. dans ma vie, dans tous les cas. Et donc là, j'ai 22 ans.
Ouais.
J'ai une relative idée de comment on peut faire une marque avec mon expérience new-yorkaise, mais j'ai jamais bossé à Paris de ma vie. J'ai même jamais bossé en France de ma vie, en fait, à ce moment-là. Et donc, je me retrouve à aller à la banque. Et puis là, je tombe sur quelqu'un d'assez sympa et d'assez compréhensif qui m'explique que je fais quand même une école... Enfin, j'ai quand même fait des écoles assez prestigieuses et que si j'avais envie de continuer mes études, elle pourrait m'octroyer un prêt étudiant relativement sympa. Je contracte donc un prêt étudiant et je ne retourne jamais à l'école. On doit être en février 2012. En avril 2012, on crée la société. Et la marque Étienne Dereux, on développe une première collection. Qu'on présente, d'ailleurs c'est marrant, j'avais jamais pensé, mais qu'on présente dans un showroom qui s'appelle Six London, qui à l'époque appartient à José Neves, qui est le fondateur de Farfetch. Et là, je présente une collection qui regroupe un peu mes influences du Red Sportswear américain, en même temps avec une fabrication française de qualité. Beaucoup de matières, enfin que des matières nobles, du lin, de la soie, des toiles de coton, tip top.
C'est quoi la vision à l'époque ?
La vision, c'est c'est de faire un peu un pont entre, je dirais, ce sportswear américain et cette espèce de daywear américain qui est en train d'exploser avec des Alexander Wang, Derek Lam, Philipp Lim, et en même temps de le mettre sous un angle. Plus européen et plus français, et d'arriver sur un segment haut de gamme, mais plus daywear, et en fait de combler un peu le trou qui à l'époque est laissé par entre Hermès et Lacoste. Donc voilà, un positionnement assez pas luxe, mais genre high contemporary, investir de jour, et je dirais pour une fille assez jeune. Urbaine, active, indépendante et relativement sportive.
Et à cette époque-là, tu fais tout ce travail de business model, de réflexion, de brand book, de vision, de positionnement, etc. Ou c'est vraiment un truc très, très
non, il n'y a pas, de brand book, il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de... Il n'y a rien.
C'est l'envie, quoi.
C'est l'envie et c'est un peu... C'est on y va, il y a l'occasion, on y va. Je veux dire, encore une fois, on va remettre les choses dans leur contexte. J'ai 22 ans, j'ai pas grand chose de mieux à faire. J'ai l'opportunité qui se présente et de toute façon, je les ai encore dans un coin. J'ai quand même essayé de chercher du travail hein, à un moment, effectivement, de rentrer dans un studio, etc. On est entre 2008 et 2010, il n'y a pas un rond nulle part. Et j'ai un tas de lettres de refus, que ce soit de stage ou de première embauche, qui n'en finit pas de dégrossir. Donc je me dis, tant qu'à y aller, autant y aller. Et ça se passe bien.
Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. c'est pas mal déjà.
Ça se passe bien. Il y a un peu déjà la boutique historique Antigen Collecting qui revient, qui achète la collection tout de suite. On a Tsum à Moscou qui prend un peu une petite commande. La boutique Henrik Vipskov en Scandinavie et à New York aussi. Enfin voilà, il y a plein de. Il y a un truc qui se passe, on fait un chiffre d'affaires pas ridicule pour la première année et pour la première saison. Et surtout W Magazine fait une page sur les créateurs
à suivre
à Paris, Londres, Milan, New York et à Paris c'est moi.
Pourquoi?
J'en sais rien, il faudrait relire l'article.
Ouais. Mais tu le déclenches tous ces trucs-là ou ça vient naturellement?
Non. Honnêtement, sur cette première saison, je nage en J'ai aucune idée de ce que je fais, en fait. Pour l'anecdote, il y a Aude Gribeaumont, qui est la propriétaire d'Antigna Collective, qui vient voir la collection et qui dit bah, « Ah, c'est cool, ok, bah, ça nous plaît », qui fait sa sélection, et puis qui me dit « T'as une line sheet ?»
Ouais, classique.
Et je lui dis « Non, j'ai pas, c'est quoi une line sheet ?» quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai pas de line sheet. Enfin, il y a que dalle, quoi. J'en sais, c'est un freestyle complet. Mais voilà, écoute, ça se passe. On fait un peu de sous la première saison, donc j'essaye de me structurer. On lance des trucs en production grâce à l'expertise de Martine. De ce côté-là, tout est extrêmement fluide.
Ouais, ça c'est quand même un atout extraordinaire parce que c'est quand même une grosse, c'est une grosse épine que tu t'enlèves du pied, quoi.
Bah, puis j'apprends en fait énormément aussi à son contact parce que voilà, on patronne. On patronne, on source, on produit. Ça reste quand même très fluide, quoi. Je veux dire, ça fonctionne assez bien. On livre, ça vend relativement correctement. Puis une deuxième saison, puis une troisième saison. Et puis là, ça commence un peu. Voilà, au bout de trois saisons, ça commence un peu à. Ça stagne un peu. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je suis encore basé à Lille. J'ai pas du tout de pied-à-terre à Paris, mais à part quand je viens faire mes ventes. Donc je décide, de déménager à Paris. Donc je suis parisien depuis que j'ai 23 ans. Ce qui est toujours un peu bizarre parce qu'aujourd'hui je me vois pas vivre ailleurs, mais ça m'a pris un peu de temps. Et je commence à travailler avec un bureau de presse, David Giroir. Je rencontre Patricia Lera, qui s'occupe de Designer Apartment, qui me sort un peu la tête de l'eau à l'époque en m'offrant une place un peu la dernière minute sur le showroom. Et
je crois que c'est Patricia qui nous a mis en relation.
Ouais.
Salut Patricia.
On te fait un gros bisou. Et puis là, il se passe quelque chose. Enfin voilà, je dirais qu'il y a un peu, quelque chose qui se passe une nouvelle fois. Il y a de la presse qui commence à se déclencher parce qu'il y a un attaché de presse qui fait un bon boulot à ce moment-là. Il y a une visibilité plus grande chez les acheteurs parce que on est sur un showroom plus important. Je dirais qu'il y a une espèce d'inertie qui se passe comme ça. Et puis la saison suivante, encore une fois, un peu coup de bol, je dirais le destin, on va dire, encore une fois, moi je crois, par la force des choses, je suis bien obligé d'y croire, au point où on en est. L'ancienne directrice commerciale avec qui je travaillais à New York passe sur le showroom. L'improviste. Et elle me reconnaît. Et elle me demande ce que je fous là. Et je lui explique, je lui montre ce que je fais. Et elle me dit, ok, ça, on fait une session de vente à New York dans 3 mois, même pas, je sais plus, dans 2 mois, un truc comme ça. Elle me dit, si tu veux, on te met sur le showroom. J'allais, ok, banco. À l'époque, j'ai un associé qui s'appelle Daniel Etman. On part tous les deux, un peu avec la collection sous le bras, en se disant, de toute façon, on verra bien.
Rien à perdre.
Et là, on casse la baraque. Voilà. on fait, je ne sais plus combien, mais plusieurs centaines de milliers de dollars sur la saison. On rentre une gigantesque commande chez Intermix qui nous met un peu partout aux États-Unis. Enfin, c'est un peu, un peu le big break. Je dirais, pour la première fois, on a un peu de sous. Enfin, à la fin de la saison, on a un peu de sous pour travailler. On voit un peu le bout du tunnel. On voit que la presse commence à payer. On voit que le réseau qui s'est formé autour de la marque, les gens qui soutiennent... Enfin, tout ça en fait commence à se mettre en place. Ça prend, on dit souvent que ça prend 3 ans pour faire une marque. C'est pas complètement faux. Là, en tout cas à l'époque, là, ça nous prend à peu près 3 ans. Mais là, il y a vraiment un truc. Et donc, on continue. On rentre à Paris et puis on commence un peu à vouloir passer un peu la vitesse supérieure. Je me décide pour la première fois à faire des pré-collections. Je fais une pré-collection qui fonctionne assez bien. Et en même temps qu'on présente ce showroom, en fait, je m'inscris à l'ANDAM et on présente l'ANDAM. Je présente l'ANDAM pour le prix des premières collections. Pour la petite anecdote, je ne sais plus parler. Je perds tous mes moyens devant le jury.
Il y a du beau monde quand même, non ?
Bah, y a beaucoup de beau monde. Puis c'est vachement impressionnant d'arriver un peu comme ça au milieu de ces gens-là. C'est un peu... Tu parlais un peu de ce que tu attends de ta carrière quand tu as 18 ans et que tu vas à l'Académie d'Anvers. Ben, c'est un des moments
charnières
qui en font partie, que tu attends un peu toute ta vie. Mais de certaines manières, encore une fois, voilà, le destin fait que je perds complètement mes moyens. Je suis incapable de parler.
Tu n'arrives plus à parler.
J'arrive plus à parler. Je ne sais plus quoi leur dire. Je ne sais plus ce que je fous là. Je ne sais plus ce que je dois leur raconter. Il y a mes mannequins qui me sauvent un peu la vie parce qu'elles se mettent à bouger, à défiler. Il y a un truc quand même qui se passe. Mais moi, je suis incapable de dire quoi que ce soit. Il y a mon associé qui prend un peu le relais, qui meuble. Mais bon, on a déjà un peu perdu le momentum. Voilà. C'est notre tour passe. Je me souviens d'être allé au bistrot avenue Marceau le temps des délibérations parce que je me trouvais un peu con à rester là en n'ayant pas su quoi dire. À ce moment-là, Léa Pecre gagne le prix brillamment et elle en a tout le mérite. Ce qui se passe en revanche, c'est que j'ai deux personnes qui viennent me voir. Guillaume Houzet d'abord, qui me dit un des patrons des Galeries Lafayette et qui nous dit moi mes associés qu'il envoie son acheteuse à la première heure le lendemain. Parce qu'il a beaucoup aimé la collection et qu'il veut nous soutenir. Et dans la foulée, j'ai Olivia Kim, qui est la buying director de Nordstrom aux États-Unis, qui tient à peu près le même discours en disant c'était génial,
on achète.
Donc là, on fait une préco, encore une fois, on casse la baraque.
Et là, tu dois kiffer quand même.
Bah là, je suis un peu... honnêtement, je sais plus comment je m'appelle, quoi. Je viens de me boxer moi-même devant un jury avec... je sais plus, il y a Pierre-Yves Roussel, il y a François-Henri Pinault, il y a Aida Ackerman. Enfin, voilà. Et moi, je suis là,
quoi. Stars,
là, je suis comme un con à pas savoir quoi. À pas savoir parler.
Ça doit être horrible dans ta tête à ce moment-là quand même. Tu te dis putain, mais j'arrive plus à sortir quoi que ce soit alors que.
Mais ça m'est jamais arrivé à part ce jour-là. Je suis incapable.
Voilà. Flippant. Okay.
Mais on fait une belle saison. Et on rentre également à un magasin assez important au Texas, à Dallas, qui me propose de venir faire un peu un tour chez eux pendant l'été. Et là, on prépare la main, on prépare un premier défilé qui se déroulera à l'atelier Brancusi.
Le rêve.
Voilà, le rêve, grâce à Guillaume Delacroix aussi, qu'on salue chaleureusement. C'était son input et ça a été...
Guillaume Delacroix, de DLX Paris maintenant, c'est ça ?
De DLX Paris, voilà. Qui est déjà là, qui est mon attaché de presse à l'époque et qui facilite grandement ce défilé. Et pendant l'été à Dallas au Texas, je rencontre au détour d'une fête et d'amis communs Erin Wasson qui est une mannequin
hyper connue,
voilà, enfin un des top modèles
de l'époque, ouais.
Et puis je lui lance pour rigoler est-ce que tu veux faire ma campagne? Puis elle me dit, attends, tu fais quoi? Elle regarde mon site. Enfin, j'avais pas de site à l'époque. Elle regarde Intermix, je crois, hein, parce que c'était un peu le principal retailer online américain à l'époque. Et puis elle achète trois robes sur son téléphone. Et puis elle me dit ouais, carrément. Et voilà, moi j'en reviens pas trop. Je rentre à Paris, je raconte ça à mon associé qui me dit non, mais t'as complètement craqué.
T'étais bourré.
T'étais bourré, elle le fera jamais. De toute façon, voilà, enfin, on n'a pas les moyens et tout. Je suis ok, on verra. Puis je relance le truc. Et puis ça se goupille, elle vient à Londres, il faut aller à Londres, illico presto, aller shooter 5 images, mais elle le fait gratos, elle le fait pour moi et c'est cool. Je pars à Londres, on shoot, ça dure 2 heures, la meuf elle est, enfin c'est un...
Trop sympa.
C'est trop sympa et c'est genre méga pro, enfin clairement tu fais 5 prises, t'as ton image quoi, y a pas vraiment
à tortiller.
Donc en soi ça se passe bien, c'est cool, on lui prend pas la tête, on la laisse un peu faire son truc. Et là bah, on a des images de ma boule mentale et on fait une campagne d'affichage dans les rues de Paris, à la veille du show, à l'atelier Brancusi. Et voilà, et on fait encore une très belle saison.
Ça a de la gueule quand même tout ça.
Et ça a de la gueule et ça permet, voilà, enfin ça permet je dirais de faire en sorte de lancer une marque. Après... j'y viens parce que là je raconte tout ça comme si y avait aucun problème. Le revers de la médaille c'est qu'on a pas de financier, le financier c'est moi. Je travaille jour et nuit pour d'autres marques pour financer les collections. Je travaille de chez moi, de chez les autres, je squatte un bureau. D'ailleurs j'embrasse Hugo Mata et Nicolas Houchner pour leur accueil à ce moment-là. Enfin voilà, je suis un peu gitant sur les bords, même si en tout cas tout le reste autour est fantastique.
En frontal et la partie émergée, elle est plutôt pas mal quoi.
Voilà. Et ce qui se passe ensuite, c'est que bah là on a vraiment un truc quoi. Genre là il y a vraiment
un gros momentum quoi.
Bah, je dirais la mayonnaise prend. On s'est entouré aussi d'une directrice commerciale qui s'appelle Sarah Schenk, qui fait un super boulot. Enfin, je veux dire, ça, les choses commencent à prendre un peu de l'ampleur. On refait un show qui se passe assez bien. Je dirais, on a Nordstrom derrière nous, plus que de raison. On a les galeries. Qui soutiennent, on a le groupe Hyundai en Corée qui soutient énormément, Tom Ground à Paris aussi, et le groupe Isetan au Japon, enfin voilà, ça c'est bien, mais en même temps on marche sur un fil sans filet de sécurité. Et à l'été 2016, il se passe un truc un peu irréversible malheureusement. Les partenaires de production avec qui on travaillait s'arrêtent, enfin je dirais refusent de... Certains veulent plus travailler, d'autres sont rachetés, d'autres s'arrêtent. Enfin, il y a un peu une conjoncture, une espèce de série noire d'un coup, là, où on perd 3 usines en même temps. Un des consultings principaux s'arrête également, donc il y a un peu un trou dans le financement. Et voilà quoi. Et là, c'est un peu la merde quoi.
Mais pourquoi ils refusent de produire?
C'est compliqué. On va pas rentrer dans le détail, ouais. Mais il y a différentes choses qui se passent où il y a des accords qui sont rompus de leur part. Je pense qu'il y a aussi des besoins. Enfin, on est dans une économie, donc s'il y a un autre client qui arrive avec une production plus grosse, il a la priorité. Ouais.
Et toute cette partie où si tu livres pas à temps, parce que s'ils te mettent en queue de peloton, enfin en queue de. Si te produisent après et que t'es à la bourre dans tes livraisons de grands magasins, enfin les grands magasins ne prennent plus quoi, non, il y a cette histoire là aussi.
Voilà.
Donc là c'est de la série noire et tu te retrouves comme un con parce que t'as.
Et le château de cartes s'effondre.
Alors que tous les voyants sont au vert, gros.
Alors que tous les voyants, mis à part financiers, sont au vert. parce qu'on est quand même, on gagne pas d'argent. Je veux dire, tout ce qui est généré et réinvesti, c'est quand même des énormes dépenses de marketing, des énormes dépenses structurelles.
Mais quand tu parles d'énormes dépenses de marketing, ça va dans quoi?
Bah, ça va dans des défilés principalement.
Ouais, c'est ça.
Puis après, tout ce qui est tout autour du seeding, faciliter des shootings. Enfin, je veux dire, c'est con, mais quand t'as pas un rond, devoir faire un DHL à 300 € pour New York, c'est
beaucoup d'argent.
C'est clair. C'est une dépense, quoi.
C'est clair.
Donc voilà, donc je dirais le château de cartes s'effondre. Je me retrouve un matin à devoir trouver je sais plus combien de centaines de milliers d'euros. Puis là, je mets un peu tout sur pause, ce que j'avais pas fait depuis quasiment 5 ans. Je prends une semaine pour réfléchir. Et je réfléchis et je vois qu'en fait, j'ai quand même une fenêtre de tir assez réduite, mais que si je m'arrête là, je peux payer la quasi-totalité de mes fournisseurs. Je peux ne pas laisser mes associés dans la panade et je peux arrêter sans trop de dégâts. Donc je m'arrête. Voilà. Je coupe le moteur, j'arrête. Et je communique pas dessus. On présente une collection qui sera jamais produite et jamais vendue. On présente une collection, on fait pas de showroom. Et voilà, et à la fin de la saison, c'est terminé. On n'entend plus parler de la marque Étienne Dereux. C'était un peu un choix de le faire comme ça. Parce que pour moi, j'avais. Je sais pas dire, j'avais dit ce que j'avais à dire parce que je pense que j'ai toujours des choses à dire, mais on a eu une belle aventure en fait. Il y a un moment donné où on a eu une très belle aventure, on a fait des choses super. Il y a un endroit principal où ça a pêché, où on n'a pas su se financer et lever de l'argent. Et je me suis dit à l'époque que c'était peut-être le moment d'apprendre à faire ce genre de choses et c'était peut-être le moment de faire une pause pour se pencher sur des sujets un peu différents qui me permettront de faire autre chose à un moment donné. Donc voilà, donc on est en 2016 et c'est la fin d'Étienne Dereux, la marque.
C'est vrai que c'est un peu violent comme truc, parce que quand c'est ta marque et que c'est éponyme, t'arrêtes ta marque, quoi. Alors tu te l'es pas fait racheter ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être moins violent, mais en tout cas, ça doit être dur psychologiquement d'encaisser ça.
Ouais, c'est dur. Non, mais y a pas, c'est clair, c'est dur. C'est dur, mais en même temps... Si tu veux, je suis de toute façon pas du genre à, je sais pas comment dire, mais je suis pas vraiment le genre à minauder ou à faire dans la demi-mesure. C'est soit on tient, soit ça tient, on tient le cap et on y va, soit on se retrouve dans la situation malheureuse dans laquelle on s'est retrouvé, ça tient pas, ça craque et c'est tout, ça craque et on passe à autre chose, quoi. Et ça a été compliqué, mais en soi j'ai aucun regret de ce que j'ai fait. J'ai rencontré des personnes géniales qui pour la plupart sont toujours autour de moi aujourd'hui dans d'autres capacités. J'ai appris énormément de choses, je veux dire il n'y a pas de point négatif, quoi. Moi je pense qu'il y a un moment, un moment où il faut savoir s'arrêter. Et c'était le bon moment avant que ça devienne un peu périlleux.
Ouais. Et quelles sont les leçons que tu en retires de tout ça? Parce que bon, c'est toujours pareil, on dit qu'un échec est un bel échec si tu en tires des leçons et si tu reproduis pas les mêmes leçons. Et surtout, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'apprentissage.
Oui, il n'y a pas, d'échec, il n'y a que, des expériences. J'ai appris énormément sur la gestion d'une entreprise. J'ai appris énormément sur l'humain, parce qu'on se retrouve à travailler avec énormément de gens. Quand on a une marque de mode, on travaille avec, encore une fois, tous les corps de métier dont je parlais au début, qu'on découvre, enfin que j'ai découvert quand j'avais 12 ans. Mais pour le coup, là, j'ai l'occasion de bosser avec tous ces gens-là, des ateliers, des attachés de presse, des musiciens pour le show, des mannequins, des stylistes, des maquilleurs, des coiffeurs, des designers, des banquiers même, enfin je veux dire tout un tas de gens et je pense que créativement d'une certaine manière ça m'a permis de dire des choses, enfin d'avoir de pas avoir de filtre, de pouvoir m'exprimer comme j'en avais envie, je dirais de récupérer enfin, de prendre une liberté que j'avais pas nécessairement eu avant. Donc j'ai, voilà. Enfin, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà ce que j'ai appris. Le goût de la liberté.
Mais c'est une façon de la poser différemment. Et j'aurais peut-être une réponse différente. C'est qu'est-ce que t'aurais fait différemment finalement si c'était à refaire.
Deux choses, beaucoup moins de compromis, parce que malheureusement faire des compromis c'est pas une bonne idée dans la mode.
Mais c'est des compromis sur quoi, ça peut être la qualité, c'est les gens, sur
et tout en fait, tout. Voilà, on t'explique que comme t'as, enfin c'est horrible hein, mais il y a un discours qui revient souvent, c'est bah t'as pas de thunes donc il va falloir faire des compromis. Et tu te retrouves effectivement à faire des compromis parce que tu peux pas nécessairement financer les choses dont tu as vraiment envie. Mais il y a une certaine urgence dans cette industrie où il faut livrer, il faut faire des choses, il faut respecter un calendrier. Donc tu te retrouves à faire des compromis sur des trucs qui sont un peu au rabais et qui sont pas nécessairement comme tu as envie de les faire. Voilà. Enfin, donc ce genre de compromis, qu'il soit esthétique ou économique, je les referai pas. Ou en tout cas beaucoup moins. Et je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est enfin je sais pas si enfin ce que je ferais différemment aujourd'hui, mais c'est basé sur une expérience. Quand je suis sorti de la banque à 22 ans avec mes 32 000 euros de prêt étudiant, j'avais l'impression d'être le roi du monde quoi. Je pensais que ça allait me durer 5 ans.
Ouais. Et ça a duré
3 mois. Du coup, voilà, si je devais recommencer, je me financerais correctement, tout simplement. Mais à part ça, je pense que je garderais, je changerais pas grand-chose.
Et donc, explique-nous, une fois que tu te prends un mur comme ça, je sais pas si on peut appeler ça un mur,
ouais,
ou
ouais,
porte,
c'est
etc.
Un bon mur. Ouais.
Un bon mur. Comment tu te reconstruis derrière et comment tu remontes à cheval, quoi.
Bah, tes amis, je dirais tes proches et tes amis, c'est quand même la chose la plus précieuse, que ce soit des amis dans l'industrie ou pas, mais c'est ce qui t'aide à te remettre sur pied. Donc voilà, ma femme, encore une fois, mes amis proches, et en particulier certains dans la mode qui m'ont aidé, certaines personnes dans les institutions ou dans les fédérations qui sont aussi venues un peu à mon chevet, entre guillemets, parce que c'est un peu ça, pendant au moins un an, t'es un peu chaos, quoi. Mais voilà, je me remets sur pied assez vite, en fait, dans le travail. Par un concours de circonstances, je commence à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais. En fait, par l'intermédiaire d'un ami proche, je rencontre un rappeur anglais qui s'appelle Skepta, qui aujourd'hui est relativement connu quand même, mais à l'époque pas vraiment, en tout cas pas, et en France encore moins. Et puis, voilà, je le rencontre, on s'entend bien. Mmh. Il m'explique qu'il veut faire une marque, puis qu'il a besoin d'aide. Et donc, je me retrouve à bosser avec, avec ce mec qui est, assez, qui est incroyable, qui a un sens de, du style et de l'esthétique vraiment hors norme, qui a rien à envier à certains designers, clairement. Et on se met à développer une marque qui s'appelle Mainz London, qui est une marque de streetwear, mais je dirais plus dans plus Prada Sport que Nike Adidas, quoi. Mm. Donc on fait du street haut de gamme, dont lui est la principale mascotte, qu'on vend exclusivement en online et dans des pop-up. Donc voilà. Pour rappel, ça me change du tout au tout. Je faisais du womenswear, j'avais un business model complètement wholesale et je défilais à Paris. Je me retrouve à faire du streetwear à Londres pour hommes et à apprendre les rouages du B2C, quoi. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Déjà, on s'entend super bien. Et Dezio, en fait, Selfridges nous propose un pop-up et une fête de lancement. Donc, on fait une fête de lancement et un pop-up chez Selfridges en juin 2016. Et puis là, c'est cool, quoi. Là, on a pas mal de gens qui commencent à porter les vêtements. Il y a un bon buzz, en tout cas en Angleterre, qui se crée. Et puis lui, au même moment, sa carrière décolle. Il a disque de platine, je sais pas combien de fois. Il a un morceau avec Drake qui sort à ce moment-là. Enfin, voilà. On est sur la crème de la crème du rap. Et en même temps, moi, ça m'ouvre un peu les portes de l'Angleterre. Ça me fait changer d'air. Ça me fait voir autre chose. Je me retrouve dans une situation confortable parce que je suis plus au premier plan. J'ai quelqu'un de vachement plus gros que moi, quoi. J'ai quelqu'un qui absorbe la lumière, qui est une star, quoi. Mm. Le mec, c'est une rockstar, quoi. C'est partout où on va. On le reconnaît. Je me souviens d'être dans un aéroport au fin fond du Portugal pour visiter des usines. Les mecs de British Airways qui nous font un pont d'or parce qu'ils le reconnaissent et parce que c'est une rockstar, quoi. Et c'est cool, en fait, parce que je suis plus au premier plan. Je suis dans l'ombre. Je peux faire mon boulot, je peux faire ce que je sais faire, apporter mon expertise, être efficace, faire des produits qui se vendent. Mais j'ai plus à communiquer dessus, en tout cas plus de façon directe. Et ça m'enlève un poids énorme. Et je commence en fait, je continue, je travaille avec lui, je développe cette marque. Qui existe aujourd'hui, qui a son prix, encore une fois, on est toujours sous le même modèle, hein. On a un site web et des pop-up. Dernier en date, c'était à Tokyo il y a 3 mois chez Nubian. Et en fait, je développe une activité de conseil via, je dirais, cette première expérience où je fais du conseil en direction de design, en direction créative, je dirais stratégie de supply chain, en production et plus globalement, je dirais en image et de comment on part, comment partir d'une idée à un produit fini. Et voilà, par l'intermédiaire de certaines personnes dont je parlais tout à l'heure, notamment Priscilla Joko à la Fédération du Prêt-à-Porter, je commence à travailler avec Y Project. Je les aide beaucoup sur la remise à plat de leur production en jersey et en tricot. J'intègre le programme Talent en tant que mentor au sein de la Fédération du Prêt-à-Porter, où je travaille principalement pour Maison Château-Rouge. Je les aide un peu sur des sujets similaires, mais je dirais plus globaux en termes de collection. Et je commence aussi à m'occuper, enfin à reprendre la direction du design d'une marque historique qui s'appelle Fiorucci, qui est basée à Londres aussi aujourd'hui. Et donc je remets à plat les collections hommes et femmes pour Fiorucci et notamment pour attaquer le marché wholesale dans le monde. Ce que je fais pendant un an et demi et avec une belle réussite, on fait 2 millions de livres de chiffre d'affaires en 9 mois pour une marque qui n'existait plus depuis 1990 voilà, avec une équipe de 5 personnes, donc plutôt
c'est propre, ouais.
ouais, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, sur le papier, c'est assez cool. Et puis, ça permet, je dirais, ça permet de remettre un peu les pieds sur une mode un peu plus, voilà. Enfin, sur une, j'ai pas envie de dire haut de gamme parce que ce qu'on fait avec Skepta ou avec ouais, Project, encore plus. Mais une collection complète, en fait, où je me remets à toucher du denim, du jersey, de l'outerwear. Enfin, voilà, on peut reprendre. Reprendre la main sur ce qu'est mon métier, quoi, et sur tous ces aspects. Et ça se passe bien, même très bien. On a au même moment Adidas Original qui approche la marque pour développer une collaboration qui va durer 3 ans et que je dessine. Voilà. Enfin, je dessine avec ma propre équipe en Allemagne au siège d'Adidas où je me retrouve à aller. Une fois par mois, à bosser avec eux et à bosser sur une voilà dans ce genre de structure gigantesque avec enfin on parle d'un campus où il y a 4 000 employés, tu peux manger, dormir, nager, jouer au foot, garder tes enfants, faire tes courses au même endroit. Et c'est assez cool, ça me encore une fois, ça me remet, je dirais, ça me remet dans un univers. Réactif, avec des moyens, où on fait des produits avec un impact, en tout cas un impact d'image. Et ça m'ouvre aussi, en fait, sur. Enfin, j'ai pas envie de dire que ça m'ouvre, parce que c'est une réflexion que je menais déjà personnellement depuis un moment, mais en tout cas, ça me donne l'occasion de travailler sur une question écologique. Et sur un aspect sustainable, parce que pour rappel, Fiorucci, c'est une des marques historiques sur le sauvetage de la planète. En fait, lui, en tant qu'individu, avait des campagnes, menait des campagnes pour la sauvegarde de pas mal d'espèces, les phoques notamment. Ça a été un des premiers à reverser des fonds à WWF sur ses collections. Ça a été un des premiers à reverser des fonds pour la sauvegarde de la forêt amazonienne, ce qui est relativement actuel comme sujet, malheureusement. Donc voilà. Donc en fait, je dirais j'ai un espèce de hook là-dessus où je peux baser ma réflexion sur des collections et sur une marque qui a qui en tout cas ces affinités-là aussi et aussi Adidas où on mène une réflexion avec les équipes sur place de comment on peut sans nécessairement en parler, sans nécessairement pousser faire du greenwashing mais comment est-ce qu'on peut faire des produits qui soient 100% sustainable. Ça va du démontage des semelles de chaussures pour les recycler, à utiliser du cuir végétal, à des teintures avec le moins de produits chimiques possibles. Voilà. Et pouvoir après, c'est con, hein, mais au lieu de faire du denim, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme toile ou comme sergé qui n'ait pas besoin d'utiliser 7 000 litres d'eau pour faire un pantalon, quoi. Sachant qu'on va en produire 30 000, comment on réfléchit à ça? Donc on mène pas mal de réflexions là-dessus.
Vous avez trouvé des trucs cool? Parce que c'est quand même une question. En ce moment, moi j'en parle énormément. Et puis, au travers du projet que je suis en train de développer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire faire des produits sustainable? Parce qu'il y a 10 000 façons de le faire, en fait.
Là, l'approche, c'est de pouvoir recycler, de pouvoir et d'utiliser, je dirais, des matières premières avec le moins d'impact ou d'empreinte carbone possible. Et par ailleurs, alors on n'est pas en train de parler d'upcycling, mais en tout cas d'utiliser des bases existantes chez Adidas pour limiter ou réutiliser des productions, des choses existantes. On trouve des trucs cool, je sais pas, mais après, en tout cas, ça permet. Il y a un vrai effort de la part d'Adidas d'ouvrir les portes de leur recherche et en fait d'utiliser des choses sur lesquelles ils travaillent. Donc, te dire que moi j'ai fait des découvertes à ce moment-là, personnelles, oui. J'ai créé des choses qui sortent du commun, non, parce qu'ils ont des équipes dédiées à ça et que. Mais que j'ai eu la chance de pouvoir assister à ces développements, de pouvoir en parler en réunion, de pouvoir démettre des idées qui peuvent peut-être aboutir, je dirais, à un développement un peu plus poussé ou plus adapté au marché dans lequel on travaillait pour cette collab en particulier. Et voilà, et ça m'inspire beaucoup. Encore une fois, je me rends compte que c'est un peu possible, enfin que c'est possible en fait. J'ai toujours un truc un peu empirique où je vois une idée et puis j'ai besoin un peu de la mettre en pratique pour me rendre compte qu'elle est réelle. Et ça me pousse à mener une réflexion sur comment on peut upcycler, comment on peut transformer des vêtements, des tissus, des choses qui des résidus de l'industrie textile at large, que ce soit du vêtement ou des trucs industriels, techniques, ce que tu veux.
Un truc de voiture, ouais.
Voilà. Et aujourd'hui, je dirais que je partage un peu mon temps entre une activité de conseil, principalement en direction de design, pour différents clients, ceux que j'ai cités et d'autres, et une autre partie de mon temps où j'ai une pratique. Alors, je ne sais pas si on peut la qualifier de technique ou d'artistique ou de recherche. Je ne sais pas encore bien ce qu'elle est, mais en tout cas, une pratique où j'explore déjà les circuits du recyclage de fibres textiles en France et dans le monde. Que ce soit, ça va des centres de tri à des startups. Sur la côte ouest, qui crée des bains chimiques pour séparer les fibres de coton et de polyester, à du travail plus terre à terre de coupe et de couture, de montage et de démontage de vêtements, pour nourrir un besoin de créativité et un besoin de recherche sur ce sujet qui me tient à cœur, parce qu'on est quand même en train de vivre dans une planète, sur une planète qui brûle. Et par ailleurs, pour trouver des embryons de solutions pour mes clients, pour qui aujourd'hui, quasiment pour 100%, qu'ils soient en Allemagne, en Chine, en Angleterre ou aux États-Unis ou en Italie, ont des besoins de. Enfin, même pas des besoins, ont des envies, et même, ouais, envies, des besoins, obligations, des obligations d'être sustainable. Et pas juste de le dire, pas juste de faire des campagnes de pub, de vraiment.
Switcher complètement le modèle, quoi.
Voilà, repenser le modèle et réduire l'impact le plus possible.
T'es hyper branché. Enfin, à ton dépend ou enfin non. En fait, c'est le marché qui demande ça aujourd'hui. C'est que tu t'es d'une certaine manière hyper spécialisé enfin, tu fais pas que ça, mais tu t'es vachement intéressé à ces sujets de sustainability.
Ben, je pense qu'il y a deux raisons, en fait. C'est pas... Il y a effectivement, il y a une vraie demande de marché parce que c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet d'actualité par la force des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une tendance à la con, genre Juicy Couture dans les années 90, on est sur une tendance de fond qui va être intrinsèque à notre qualité de vie pour les X prochaines années. Jusqu'aux prochaines années, c'est plus qu'une tendance, c'est une transformation de vie. C'est-à-dire que si on se met pas à suivre ce chemin, on n'existera bientôt plus. Moi personnellement, il y a un intérêt là-dessus où c'est, c'est s'adapter ou mourir, hein, malheureusement, dans l'espèce humaine. Mais au-delà de ça. Professionnellement, c'est un sujet intéressant parce que c'est de mon existence, de mon vivant, la très grande tendance de fond sur laquelle on peut développer, on peut travailler toute une vie. Enfin, je vais pas faire de parallèle à la con, mais quand Christian Dior lance le New Look en 47, on est en sortie de guerre mondiale, plus personne sait comment il s'appelle, plus personne sait ce qu'il faut mettre, et il y a un besoin de légèreté et de recréer une mode qui soit comment dire, légère, dans le sens où elle est, enfin, quand je dis légère, ça veut dire récréative, on va dire. Voilà, il faut, on fait des choses, effectivement, il faut s'habiller, mais il faut aussi le faire pour que ce soit fun, et on crée du luxe, on habille les gens, il y a un marché qui se crée parce qu'il y a un besoin de renouveler un peu l'air et de renouveler un peu renouveler les choses. Là, on arrive un peu à la fin de ce cycle, 70 ans plus tard, et on se retrouve face à un problème au moins aussi important qu'une guerre mondiale, c'est que au train où ça va, on aura bientôt plus d'eau, bientôt plus d'oxygène et bientôt plus de quoi bouffer, quoi. Donc, faut réagir.
et d'ailleurs, enfin, est-ce que c'est encore du sens de faire des vêtements ?
Alors, je pense qu'on est quand même dans la plus grande industrie au monde qui n'a aucun sens. Ça, c'est quand même merveilleux, c'est que on est 7 milliards sur la Terre, on produit 100 milliards de vêtements par an. Et on est quand même très loin de répondre au simple besoin primaire de se vêtir. Donc, est-ce que ça a du sens si on le prend de manière très primaire? Non, pas vraiment. Je pense qu'on pourrait s'en sortir.
Sans designer et sans marque de mode.
Avec une paire de chaussures, de pantalons, de chemises et un manteau qu'on changerait tous les 6 mois, tous les ans, je pense que ce serait pas impossible. Après, c'est quand même le côté merveilleux de ce métier et de cette industrie, c'est que on ne répond à pas un besoin, on répond à on ne répond à rien de vital, quoi.
Mais on répond à plein d'autres besoins.
On répond aux rêves, au marqueur social, aux rêves, à l'envie d'expérience des gens, je sais pas. Enfin, on répond à un paquet de trucs, mais à rien qui soit vraiment vital. Ça, c'est ça qui est marrant.
Et dans les tout à l'heure tu l'as un petit peu abordé, mais comment on est, je sais pas, moi je me mets à la place de jeunes créateurs qui lancent une marque de mode, comment on fait une marque de mode qui soit vraiment responsable?
Comment on fait une marque de mode qui soit vraiment responsable? On se pose des questions, enfin je veux dire chaque étape doit soulever des questions. De Après, ça dépend à quel degré on veut le faire, mais je pense que déjà le sourcing, c'est 50% du job. Et quand je dis sourcing, ça va du bouton à la fabrication, au tissu, à tout ce que tu veux.
À la fibre.
Je pense que le transport, c'est au moins encore 30% du job. Éviter de faire des DHL, éviter de prendre l'avion quand c'est pas nécessaire, ou de faire prendre l'avion ses produits quand c'est pas nécessaire. Et après, voilà, il y a de la gestion quotidienne. Trier ses déchets. Éteindre les lumières quand on sort du bureau, quoi.
C'est vrai que c'est à tous les niveaux.
C'est déjà pas mal.
Et en termes de choses, de matières, parce que tu parles beaucoup de recycler et de recyclage, notamment avec Adidas, etc. Il se fait vraiment des trucs cool aujourd'hui. T'as le sentiment que. Ouais, j'en parlais hier justement avec quelqu'un qui est champion du recyclé aussi. C'est Opal, tu sais, Clément. Opal, et on a parlé longuement de tous ces sujets-là, sur le recyclé, il y a du bon, il y a du moins bon. Quand tu mets du plastoc dans ta fibre, ta fibre naturelle, c'est pas non plus terrible. Utiliser du polyester, c'est clairement pas terrible, si c'est pas vraiment nécessaire pour faire des vêtements vraiment de sportwear. Tu vois, il y a... En fait, c'est un sujet qui est tellement complexe. C'est important, je trouve, sur ce podcast, de faire un peu de pédagogie pour expliquer concrètement aux gens ça veut dire quoi faire du recyclé et comment tu fais une marque qui reste quand même éco-responsable, responsable, sans forcément passer par le recyclé, en sachant que le recyclé, il y a des trucs qui sont aboutis, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas du tout aboutis et qui ne sont pas du tout prêts, quoi.
Je pense qu'il y a deux chemins, on va dire. Il y a effectivement recycler des fibres et de travailler avec des choses qui ont été transformées ou remises sous une forme. J'en sais rien. Je pense à des fibres compressées. Je pense à... Encore une fois, des choses qui passent dans des bains pour pouvoir recréer de la pulpe et retisser. Là, aujourd'hui, il y a une société en particulier qui vient de lever pas mal de fonds auprès d'H&M et auprès de Miroslava Douma qui a créé un bain qui permet en fait, de recréer de la pulpe de coton par rapport à des vieux t-shirts ou des vieux jeans ou des vieux ce qu'on veut. Ça permet de... Alors, je pense pas que le bain chimique soit des plus clean au monde, mais en contrepartie, ça permet de sauver 95% de l'eau utilisée pour la culture de coton neuf. Je suis pas certain. Je reviens. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est la réutilisation pure et simple d'objets ou de vêtements existants, un peu à la Margiela, on va dire. Utiliser des vieux trucs pour en faire des nouveaux. Ça consomme pas d'énergie. Il y a des tas de fringues qui pourrissent dans des hangars aux quatre coins du monde. Faut juste aller les voir et aller les trouver et pas avoir peur de mettre les mains dans la merde pour sortir des choses. Mais il y a énormément de vêtements déjà portés, déjà utilisés qui sont tout à fait réadaptables à une réutilisation, à une remise sur le marché et ça consomme rien, quoi. Mais je pense que ça consomme rien aussi, ça doit consommer des transports et des camions qui transportent des bennes d'un point A à un point B. Je pense que pour la conclusion, c'est qu'il y a, je pense pas qu'il y ait une solution 100% clean en fait. On va pas revenir à l'âge de pierre, clairement. On vit dans un monde où dès qu'on fait un truc, ça consomme de l'énergie, on est dépendant à l'énergie. Je lisais récemment que une journée d'échange de mails dans le monde, ça équivaut à 4000 Paris-New York en termes d'émissions de CO2. Donc voilà, même envoyer des mails, en fait, ça consomme de l'énergie parce qu'il faut faire tourner des serveurs et que voilà, et on va pas arrêter d'envoyer des mails, on va pas tous se mettre à marcher ou dans des voitures à pédales pour aller pour aller travailler. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait de solution 100% clean. On peut juste travailler à tous les points, à savoir faire en sorte que l'énergie qu'on utilise soit propre, faire en sorte que la façon dont on utilise cette énergie soit responsable, la façon dont on a ce vecteur soit propre et ou responsable, que la façon dont on a de se nourrir soit et propre et responsable et respectueuse de nos amis les animaux. Et pareil pour les transports, je dirais. Enfin, c'est peut-être le. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la mode, enfin, en ce moment, en disant que c'est l'entreprise la plus pollu, enfin l'industrie la plus polluante. Ça fait, je dirais, ça fait une belle jambe à l'industrie tout court et aux grands noms du commerce international qui font voler des avions et des bateaux au kérosène et au pétrole à longueur de journée dans le monde entier. Je pense que c'est peut-être ces gens-là aussi qui devraient commencer à mener une réflexion sur leur façon d'utiliser l'énergie, parce que on devra toujours, n'importe quelle marque de mode qui a du succès trouvera un consommateur dans d'autres endroits du monde. Je dirais que elle est basée à Paris. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de trouver des consommateurs en Chine, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, et où on veut. Et pour que ces gens aient les produits qu'ils achètent et qu'ils fassent tourner cette industrie, il faudra bien les livrer. Donc, je pense que la réflexion, elle va au-delà pour qu'on soit 100% clean et pour que tout soit raccord, on va au-delà de la simple industrie de la mode.
Et les solutions qui sont sur le. Une dernière question hein, sur le produit, sur la fibre, sur le matériel. Aujourd'hui, est-ce que tu trouves sur le marché des solutions qui sont viables, quoi, que tu peux utiliser, que tu utilises et qui sont satisfaisantes?
Ouais, il y a des solutions. Après, c'est encore une fois à différentes échelles. Je pense que déjà avoir. En tant que designer, voilà, enfin, qui que ce soit qui est designer, créateur de mode et qui a une vocation à travailler le tissu, à travailler la matière, il y a un vrai intérêt de connaître ce que je vais appeler son alphabet, c'est-à-dire les abréviations des compositions. Une fois qu'on connaît son alphabet et qu'on sait faire la différence entre un coton, une laine, une viscose, un polyuréthane ou un polyester, une acétate, etc. Et ben, se renseigner sur ce que sont ces choses parce que en fait la viscose c'est synthétique, mais c'est synthétique à partir de fibres végétales, donc c'est relativement OK. En revanche, voilà, on parlait du polyester tout à l'heure, vaut mieux pas. Il y a beaucoup de fabricants japonais qui travaillent le rayon ou la rayonne, ça dépend comment on veut l'appeler. Encore une fois, c'est basé sur une fibre végétale, c'est du bambou. Ça a une super élasticité, ça permet de remplacer des trucs plastiques type élastane, etc. Voilà, c'est comme en cuisine, quoi. Connaître ses ingrédients, et puis après, une fois qu'on les connaît, les utiliser à bon escient. Et à partir du moment où on les utilise à bon escient, on peut remplacer des choses et on peut éviter d'utiliser des solutions de facilité qui sont particulièrement le polyester, qui se trouve à peu près partout et qui est un dérivé du pétrole. Donc, pas top.
Mais le sentiment que j'ai, c'est qu'avec le polyester, j'ai plusieurs sentiments à ce que tu me dis. C'est que d'une part, il y a quand même un manque de connaissances assez large dans l'industrie de la part des designers qui connaissent pas forcément, qui connaissent plus forcément ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est c'est la problématique économique, c'est que polyester, c'est pas cher. Donc c'est pour ça qu'on en fout partout et que c'est
pas cher, mais comme tu le dis, c'est une problématique économique et comme dans toute économie, il y a un facteur d'échelle. Aujourd'hui, c'est une solution. Le polyester, c'est simple à fabriquer, c'est pas cher à fabriquer et on
c'est peut facile à tisser.
Et c'est facile ça. À tisser et on peut en faire plein, donc il y en a beaucoup, donc ça coûte pas cher. Je pense qu'il y a effectivement. Je dirais qu'il y a peut-être un besoin de concertation entre les grands fabricants, les grandes entreprises et les grands tisseurs et leurs filiales, de savoir ben voilà, peut-être que comment est-ce qu'on peut remplacer certaines fibres par d'autres et comment on peut créer cette économie d'échelle. Ou voilà, si on arrive à remplacer... j'en sais rien, déjà 50% du polyester dans le monde par une fibre qui soit naturelle ou synthétique mais issue d'une base végétale, ça sera déjà pas mal.
T'as le sentiment que ça bouge vraiment fort là en ce moment on parle c'était le G7 donc il y a quelques jours, quelques semaines on parle de ce pacte qu'ils ont fait là, 30% de l'industrie s'est engagé sur des trucs. Il y a l'impression qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce comme ça, mais toi qui vis les choses de l'intérieur, t'as l'impression, est-ce que ça fait déjà 10-12 ans qu'il y a... est-ce que ça change vraiment quoi ? Est-ce que tu sens qu'il y a un gros move ?
Je pense qu'il y a une vraie réflexion. En fait, il y a un élan positif et il y a une vraie réflexion de la part d'énormément, voire quasiment 100% des acteurs aujourd'hui. Et comme j'explique, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu, c'est plus qu'une tendance de fond. C'est en train de devenir une réflexion intrinsèque à l'industrie. Et je pense que ça, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est du jamais vu, mais c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. C'est assez beau à voir parce que pour la première fois, mais on va, il y a un peu une espèce de le truc où on casse les murs, on dit ouais ok toi t'es mon concurrent, ça fait je sais pas combien de temps qu'on se fait la guerre parce que pour des parts de marché, mais en fait là on va discuter d'une vraie question. Moi je vais peut-être vendre plus de sacs à main que toi la saison prochaine, mais en fait là à l'heure qu'il est on s'en fout. C'est pas la question. La question c'est est-ce qu'il va rester des gens pour acheter des sacs à main dans 20 ans. Et encore une fois, il y a une logique économique, il y a une logique industrielle qui est complètement intrinsèque à notre métier et à notre industrie, et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'est intéressant et c'est positif de voir qu'il y a un vrai débat. Après,
mais il se passe où le débat ?
Je pense qu'il se passe à tous les niveaux. Il se passe là, entre toi et moi... Maintenant, il se passe au niveau du G7 la semaine dernière. Il se passe, je pense, dans à peu près tous les studios de création du monde, à l'heure qu'il est. Il doit se passer chez les fournisseurs qui voient bien le vent tourner et qui se disent qu'il va falloir s'adapter. Je pense qu'il se passe à tous les niveaux. Mais il est peut-être encore un peu tôt pour en voir les fruits. Et on est un peu habitué à l'instantanéité de plus en plus dans notre milieu. Mais je pense que là, il faut éventuellement être patient pour une fois et voir ce que ça donne. Mais je suis assez optimiste pour une fois.
Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on parle aussi de ton métier d'accompagnement sur l'image, sur la prod, etc. Typiquement, est-ce que tu peux nous faire un petit cas d'école sans prendre en particulier une marque, mais quand tu accompagnes une marque sur de l'image, quand tu accompagnes une marque sur du produit ou sur sa production, comment tu t'y prends ? Commençons par un de ces trois sujets.
Ils sont quand même relativement différents hein, et l'approche finale n'est pas toujours la même, et forcément parce que le résultat n'est pas le même. Il y a un dénominateur commun qui va paraître un peu stupide peut-être, mais c'est le dialogue. c'est parler beaucoup avec les interlocuteurs, les clients, qu'on appelle comme on veut, et de comprendre leurs besoins, comprendre ce qu'ils, en fait, comprendre ce qu'ils veulent dire, comprendre ce qu'ils veulent faire, et comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est un peu du problem solving 101, mais tu veux produire telle pièce à tel prix, pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà, bah on décortique la chaîne, on décortique les façonniers, on décortique la façon dont les façonniers travaillent, on décortique la matière première, on décortique le système de production, enfin système informatique de production, j'en sais rien, ça va de tout ça à vas-y, viens, on supprime cette couture et en fait tu vas atteindre ton target, quoi. C'est ou très simple ou très compliqué, mais en tout cas ça passe par du dialogue de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, en fait, parce qu'il y a en général là où ça bloque, c'est qu'on a des idées préconçues ou des idées fixes sur ce qu'on veut atteindre et pas nécessairement les perspectives de vous pour voir qu'il y a différents chemins. Et je repenserai toujours, ce sera peut-être la conclusion de tout ça, mais quand j'étais stagiaire à Londres chez Peter Piloto et que j'avais 18 ans, on travaillait avec un monsieur qui était modéliste, dont j'ai oublié le nom, mais ce monsieur, il était prof de patronage au Royal College of Art, ce qui est une des très très bonnes écoles. Et puis j'arrivais pas à faire un truc, je sais plus ce que c'était. Et ce mec-là m'a regardé et m'a dit, tu sais, dans ce métier, il n'y a pas de voie dorée. Il faut explorer toutes les pistes. Et ce qui importe, c'est le résultat. Voilà. Et ça a changé ma vie. Parce que quand je tombe sur une... Enfin voilà, quand je bute sur une porte fermée, quand je suis face à un mur, bah je me rappelle de ce mec-là. Et puis je me dis, bah ouais, en fait, à l'époque, il ne m'avait pas donné la solution, mais j'avais résolu mon problème. Et ça m'aide à, voilà, ça m'aide à explorer différents chemins, à différentes perspectives, et de regarder les choses sous un angle différent et de pouvoir résoudre le problème. Et c'est un peu ce que j'essaie d'apporter aux gens pour qui je travaille.
C'est quoi la suite pour toi ?
La suite pour moi. Pour l'instant, je suis assez content de... Enfin, content ou pas content, mais je vais reprendre, mais j'ai découvert, je dirais, une certaine aisance à travailler dans l'ombre. Et à travailler pour les autres, un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec mon expérience pour Skepta. Et je me trouve beaucoup plus à l'aise dans mon métier et beaucoup presque même plus libre dans cette position. Donc aujourd'hui, développer mon activité de conseil ou mon activité de soutien d'une façon ou d'une autre aux marques, aux jeunes créateurs ou à des industries, enfin, je sais ce qu'on va appeler presque des industriels, type Adidas, des institutions, des personnages publics, me convient bien. Si mes projets, mes recherches d'apprenti sorcier en upcycling avance bien, on verra, peut-être d'en faire profiter le plus grand nombre, mais pour l'instant ça reste embryonnaire, donc on verra.
Avec un projet peut-être un jour de remonter un business où tu serais pas forcément la tête de gondole, mais tu serais le patron, quoi, de ce business.
Ouais, bah enfin en tout cas avec un projet de moi je crois beaucoup, enfin je crois au produit, je crois, enfin je suis quelqu'un, en fait avec une formation de design, mais qui a eu, par la force des choses, beaucoup d'expérience en développement, en usine, en produit. Et je suis quelqu'un qui crée des produits. C'est quand même la base de mon métier. Donc, pouvoir développer une activité qui me permette de créer des produits qui sont miens et de les commercialiser et d'en faire une entreprise florissante, est effectivement quelque chose que je, auquel, à laquelle je réfléchis, auquel, enfin, auquel je réfléchis, mais c'est... Voilà, c'est un step by step. On va dire. J'ai déjà fait monter une boîte en cramant toutes les étapes, donc j'essaie une autre version cette fois-ci. Ouais.
Et qu'est-ce qui te drive aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui me drive ? Bah, il me drive qu'on est, on est à un moment intéressant de l'industrie, comme je disais tout à l'heure, où il y a des grandes questions de fond qui se posent. C'est intéressant de réfléchir à des réponses voilà, et ma vie de famille et mon équilibre personnel et professionnel me drive aussi, parce que j'ai une femme merveilleuse qui travaille également dans ce milieu, qui comprend bien ce que je fais, qui me soutient et qui m'aide, donc voilà, on est toujours, c'est toujours plus drôle à deux. Je pense que c'est les deux points principaux, on va dire.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'impressionnent aujourd'hui dans l'industrie de la mode? Enfin, des gens où tu trouves que ce qu'ils font, c'est vraiment cool, quoi.
Bah, il y a plein de gens où je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment cool. Déjà, je trouve que ce que fait Monsieur Pinault au sein du groupe PPR pour la survie de la planète, c'est déjà pas mal. Et c'est intéressant de voir quelqu'un de ce calibre se projeter là-dedans. Dans l'équipe d'en face, je suis quand même relativement fasciné par Virgil Abloh, dont on peut penser ce qu'on veut, mais... je trouve qu'il a une force créative, en tout cas, il y a un rythme qui est impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, il y a beaucoup de gens brillants dans cette industrie. C'est aussi un de ses grands atouts, on va dire.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Écoute, on arrive à la fin de notre épisode. Hein. Ça fait bientôt, ça fait 1h30, 1h40 qu'on parle déjà ensemble. Hein. C'est super vite. T'as pas eu l'impression d'avoir parlé autant, mais
non. En général, je parle pas beaucoup pour ceux qui savent.
Mais écoute, en tout cas, on t'a beaucoup entendu. Est-ce que tu veux parler d'autres sujets ? Est-ce qu'il y a des questions que je t'aurais pas posées et que t'aurais voulu que je te pose ?
Non, écoute, moi, voilà, j'essaie de répondre à l'exercice de raconter mon parcours. J'espère que j'ai pas trop parlé. Mais voilà, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses.
je pourrais en avoir des milliards des questions encore, mais on fera l'objet, ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast.
Oui, avec grand
dans
plaisir.
Dans 2 ans, on se revoit. Et dernière question pour conclure, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast, toi ?
Alors, j'ai vachement réfléchi à la question parce que je savais qu'elle arriverait. Il y a un monsieur que j'admire, dont j'admire beaucoup le travail, qu'on n'a pas eu beaucoup la chance d'entendre, en tout cas récemment dans l'époque dans laquelle on vit, c'est Claude Montana. Voilà, donc moi j'aimerais bien entendre l'histoire de Claude Montana par Claude Montana.
Ok, défi relevé. Écoute, on va aller le voir. Merci infiniment pour ton temps et ton partage.
Ouais, merci à toi,
good luck pour la suite.
Merci, salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté.
Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Il n'y a pas de pub sur ce podcast. Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur patreon.com/entreprendre-dans-la-mode. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.